Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel en zone industrielle. En zone industrielle. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que nous allons parler de Havre et que ça me fait forcément penser à une zone industrielle.
Un soir, de pluie. En fait, pourquoi je dis toujours bonjour ?
C'est vrai, ça pourrait être bonsoir. Être.
Hello !
Hello, bon, yeah, ouha ! Programme encore chargé. On voit qu'on a fait du stock de bandes dessinées pendant nos vacances. Parce qu'on arrive avec.
La carte bleue à chauffer, quoi.
Ouais, la carte bleue à chauffer. On va parler du dernier album des Geeks, de Urban, de Fluide Glacial, Flingue les séries TV, de 5000 km par seconde, des Sentinelles, de Havre.
Et de Blast.
Et de Blast. Et il était temps apparemment pour Blast, je pense que tout le monde va nous dire ça. Donc, je crois qu'on peut commencer direct en fait, là pour le coup, on n'a rien à voir.
En fait, on avait du courrier de lecteur en retard, tu veux qu'on le fasse après, on le fait avant, comme ça au moins c'est fait.
Allez, on attaque le courrier des lecteurs, etc. Donc, merci à tous de nous avoir écrit, aussi bien sur Facebook que sur le blog que sur les forums. Ça nous fait toujours très plaisir de recevoir de vos nouvelles. Merci à ceux qui continuent à cliquer sur nos bannières Amazon pour nous permettre de voir une petite part, un petit pourcentage de ce qu'ils achètent et de nous offrir encore plein de BD pour avoir encore plein de trucs dont on vous parle. On a d'ailleurs acheté Pyongyang. Il faut juste qu'on le lise. Je pense que ce sera pour dans 15 ou 30 jours. On verra.
Dans 15-30 jours.
Voilà.
En fait, vu qu'on. Ouais, ce sera bien dans 15 jours.
Voilà, dans ces eaux-là.
Bien, bien tassé quand même. Parce que rappelle-toi juste que. Enfin, je vous coupe, excusez-moi.
Mais... Ouais, non, mais comme il
non,
est.
Parce qu'en fait, sur la truc reporté, rappelle-toi qu'il n'y a pas assez de lignes en fait pour tout écrire. Hein.
Oui, je sais.
En fait, il y a une deuxième page que tu n'as pas imprimée.
Oui, d'ailleurs, Pyongyang est sur l'autre page.
C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que ce sera bien tassé. Oui,
mais c'est. Comme nos lecteurs ont voté pour, on va en parler en priorité.
Mm-hmm. Le bleu est une couleur chaude aussi, on va en parler.
Oui, on va en parler en priorité aussi dès que tu auras réussi à le soutirer des mains de ta compagne.
Elle l'a lu, ça y est.
Ouais. Donc, merci d'avoir lu nos listes, on l'a déjà dit, on va récupérer des trucs. Donc c'est principalement pour Carotte et Tot qui nous ont envoyé des petits trucs.
Ils se sont pas moqués en plus, ça c'est sympa.
Ils se sont pas moqués, ce qui est plutôt sympa parce que y avait de quoi faire. Hein. Maintenant j'ai mes feuilles dans tout le désordre complet. Roy nous dit qu'il est hors de question qu'il installe cette étoile E de iTunes sur son PC. Je le comprends, iTunes c'est un peu pénible. Mais c'est vrai que les commentaires sur iTunes, si vous avez la possibilité de le faire, c'est plutôt sympa. Moi si je pouvais me passer d'iTunes, je le ferais. Mais c'est quand même le meilleur répertoire de podcast, le plus complet. Et c'est ce qui nous donne le plus de visibilité si vous aimez ce qu'on fait. On avait dit que s'il y avait 5 commentaires entre deux émissions, on faisait un truc. On a oublié ce qu'on avait dit, mais de toute façon il n'y en a eu que 2.
Donc du coup on n'a rien à faire.
Ouh.
Si quelqu'un se rappelle ce qu'on avait promis de faire... qui nous le disent.
Carotte nous dit que le son était le mois dernier était revenu pas top.
Bah ouais, c'est parce qu'en fait on était un petit peu éméché, que je devais être bien allongé dans le canapé, tu devais être bien enfoncé dans ton fauteuil et
voilà,
être
bien loin des micros. On essaye depuis 15 jours de se refaire vachement attention là-dessus. Et enfin les petits commentaires Facebook que je vais aller voir sur mon ordinateur que je n'ai pas devant les yeux. Meuble. Allez, meuble, Théo. Meuble. Oh. Non mais meuble en faisant des bruits quoi.
Mais attends, je fais une imitation du buffet, c'est bon, c'est déjà pas mal.
Oh, c'est joli.
Voilà, donc là il est en train donc de tendre la main, il regarde l'écran.
Alors on commence par Tourche qui nous met 4 étoiles et qui nous dit que ça va être dur pour les 5 commentaires. Effectivement, ça a été dur, ça a été échoué. Merci en tout cas, ça nous a fait bien plaisir que tu nous laisses ce commentaire. Surtout que tu dis que t'aimes bien ce qu'on fait, donc on va pas s'en plaindre. Et nous avons aussi Ourson Rupert, très sympathique pseudonyme, qui dit qu'il aime bien notre podcast et qui dit précisément « Attention, je vais lire et répéter, mon micro est loin, attention, je l'ai fait à la Freddie Mercury ». Qu'il apprécie beaucoup le podcast, qui trouve intéressant qu'on parle de tout type de BD, il nous dit de continuer et que dès qu'il trouve l'occasion, il jette un œil à nos collections de BD pour dire ce dont il a envie qu'on parle. Effectivement, oui, aussi, on m'avait déjà signalé que c'était super chiant à regarder dessus parce que les interfaces sont
Ouais.
pas super bien faites. On m'a recommandé BD Maniac qui, pour le partage, était très très bien. Effectivement, je trouve que l'interface de BD Maniac et son fonctionnement est super, mais je regrette que la base de données soit pas encore très pleine en vieilles choses. Effectivement, on peut la remplir soi-même, mais quand on a plus de
Écoute. Oui.
500 BD semiques comme moi, ça fait beaucoup de choses à rentrer et j'avoue que je préfère lire des BD et vous faire un super podcast comme celui-ci.
Et ça, je suis d'accord que même Bedovore, elle est indigeste. Hein. Même moi, en fait, pour regarder ma collection, je vais dans mon salon.
C'est peut-être plus
C'est plus
simple.
simple, en fait, puisque j'ai arrêté d'essayer de la regarder sur Bedovore.
Ok, et nous allons pouvoir parler du tome 7 des geeks. Presque un an après, un peu moins que le tome 6.
Cet album est fait pour vous.
Voilà, écrit en langage lit, totalement incompréhensible par le commun des mortels, même si on s'y fait. Le genre, c'est de l'humour réaliste. Pourquoi réaliste? Parce que moi, je me reconnais dedans. Tu vois, tu te reconnais dedans?
Malheureusement.
Malheureusement. On a toujours le gang au scénario, Thomas Labourreau au dessin et Christian Eyrolles à la couleur. Et ils nous font toujours un travail très intéressant. Parlons rapidement du dessin, parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements. Qu'as-tu à dire sur le dessin? J'ai mis efficace.
Oh merde.
Et toi?
Efficace.
Ouais, copain de mots! Donc, c'est doublement efficace. Comme d'habitude, hein, il a un style très dynamique, un peu caricatural, mais qui passe pas mal. Il y a un superbe hommage à Zelda en quatrième de couve, sachant que c'est le 30e ou 25e anniversaire, je sais plus. C'est écrit dessus. Bref,
25e.
25e anniversaire de Zelda. L'hommage est très très sympathique, très bien fait, bourré de références que j'ai bien appréciées.
Surtout c'est qu'il fait une belle référence à
Oui.
Windows versus Mac.
Mac, oui. Bref.
Et là, bizarrement, les Mac, c'est un peu le mal, j'ai l'impression.
Les Mac, c'est souvent le mal. Mais surtout que Microsoft, maintenant, est devenu gentil.
C'est vrai, c'est
Depuis
Mac.
qu'Apple fait plein d'argent, Microsoft est devenu beaucoup plus gentil. Le dessin, donc, est péchu, tient bien la route, les couleurs sont agréables, dynamiques, c'est bourré de petits clins d'œil dans tous les sens, on n'a pas grand-chose à rajouter dessus, c'est un petit peu anguleux. Mais moi, je trouve que ça me plaît bien et je trouve même que bah, y a du progrès comparé au premier tome. Un grand progrès depuis et un grand dynamisme dans la façon de raconter. Le scénario.
Bon, ben, y a eu quand même du changement, hein.
Ton mot.
Ah, non, non, mais je veux dire, le changement, quand même. Drôle.
Régénérer.
Régénéré. Tu trouves qu'ils se sont
Ouais.
relancés, toi?
Il se passe des choses, ils ont amené une nouvelle dynamique en faisant avancer leurs personnages.
Ben, donc, il y a eu des changements dans leur vie, en fait. Fred est toujours à DTC, Vince s'est fait têche, parce que
Voilà.
forcément, ils ont trouvé qu'il était un peu inutile, parce qu'il faisait le même travail que Fred.
Oui. Donc voilà, il y en a un qui est au chômage. Donc déjà, il y a une évolution, disons, narrative. Et puis surtout, il y en a qui essayent de faire un enfant. Et je trouve que ça apporte beaucoup de choses à l'histoire. Et une nouvelle source de gags. Ils ne sont pas contentés de rester dans leur petite tambouille interne. Et ils ont essayé de faire progresser leur histoire. Et je trouve que c'est très réussi. Que ça marche très bien, peut-être parce que nous sommes aussi des geeks de plus de 30 ans, et que ce genre de problématique...
Hérozoïde, tu parles par exemple, en essayant de se
Ouais.
reproduire, tu veux dire? Hérozoïde, c'est excellent quand même.
Voilà, donc beaucoup de très très bons gags, toujours les gimmicks pour les numéroter les gags
Alors là, par
débiles.
contre, ouais, je sais pas c'est quoi cet
Ah, c'est
affichage.
du langage lit hyper complexe, mais c'est du lit, hein. C'est-à-dire que oui, c'est du lit. Je te le traduirai si tu veux, je t'expliquerai comment ça fonctionne, mais
J'allais te dire en fait, est-ce que tu peux aussi expliquer, même pour le commun des mortels, parce que j'en fais partie, c'est quoi le lit
Alors, le lit, c'est l'écriture des geeks où tu vas remplacer des chiffres, des lettres par des chiffres. Par exemple, mettre un 6 pour faire un G. Ce genre de choses-là. Ce qui va faire une sorte de code assez facile à lire si tu as compris le truc. Mais un peu plus complexe parce que ça demande à décomposer, etc. Donc c'est un truc de geek. Hein. Lit, ça s'écrit 733 T, je crois.
Ok.
Voilà ce qu'est le langage lit. C'est un truc très très geek. Donc bah, un bon tome dans la continuité. Moi je suis très 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 très
Moi, je me suis bien
content
régalé.
d'avoir continué. Pareil, hein, j'étais pas forcément persuadé de continuer à lire les geeks. Je trouve ça sympa, mais pas forcément de quoi. lâcher mes 10 euros dedans. Mais ils avaient fait un preview sur le net qui m'a donné très envie parce que sur les quelques gags qu'ils avaient mis, eh ben, j'ai fait, il ouais, y a quelque chose de neuf, il faut que je lise la suite. Donc continuer les previews, c'est super important, je pense, pour promouvoir un bouquin. Surtout quand bah, c'est du bon humour et de la qualité dans l'humour.
Ok. Bon, par contre, moi je dis quand même que Fred il se gaffe quand même pour réussir à faire un X-Wing
En château de sable.
en château de sable. Ça.
Voilà. On note le logo de Lego de l'espace aussi sur la besace. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vient de Thomas Laboureau et de Christian Lérolle à leur atelier 510 TTC, car ils fabriquent des Lego là-bas, ils sont fans. C'est des grands fans de Lego.
Ok.
Ils ont fait le. Comment
Oui,
le.
le
Le.
Faucon
Ah, le
Millennium.
Faucon Millennium, et là, ils se sont achetés le croiseur interstellaire. Ils vont faire le croiseur. Autre truc, tiens, puisqu'on en parle, il y a une série télé, les geeks, enfin série télé, série web qui est sortie sur les geeks. Ils nous en avaient parlé.
Officiel ou
Ouais, là c'est officiel. Ils nous en avaient parlé quand ils étaient venus. C'est sponsorisé par Samsung, comme nous. Non, nous on les a payés, mais nous aussi, on est Samsung tous les deux.
Oui, on est Samsung tous les deux, mais en fait,
Non,
Samsung
on n'est pas
nous a pas
sponsorisé.
payé.
Non. Donc sponsorisé par Samsung, ça reprend les personnages. C'est en fonction des histoires, c'est plus ou moins réussi. Quand il touche à du classique, je dirais, dans l'actualité des personnages, dans la vie quotidienne, les gags fonctionnent. Dès qu'ils partent dans des gros délires, genre à un moment, t'as Fred qui va se battre contre un pseudo Dhalsim avec effet à la Street Fighter, etc. Bah, les effets spéciaux sont un petit peu cheap parfois et je trouve qu'on lâche un peu le genre. Par contre, quand tu les vois jouer à Time's Up, là, franchement, l'épisode, celui-là, était assez exceptionnel parce que la fille a du mal à deviner certains des trucs. Voilà. Enfin, moi, j'ai
Mais en fait,
trouvé.
pourquoi quand tu vois des trucs comme ça sur Internet, tu m'envoies pas le lien?
C'est vrai, faut que
Tu
je
m'envoies des
fasse.
trucs tout pourris, des fois des trucs pourris du cul. C'était quoi la dernière fois que tu m'as envoyé? C'était moche. Ah oui, c'était le.
L'épisode de Noël de Star Wars.
Ouais, c'est ça, c'était pourri!
Mais historiquement, c'est super important.
Putain, mais ça pique les yeux, tu rigoles ou quoi? C'était moche! Enfin bon, hein, moi je dis ça, je dis rien, et tu m'envoies des trucs bien et tu me les envoies pas.
Oui, mais nous allons parler maintenant d'Urban, voilà, puisque c'est comme ça.
Et là, on revient sur un truc aussi qui pique les yeux.
Qui pique les yeux?
Ah ouais, moi ça m'a fait. Moi ça m'a fait. Putain, j'ai eu presque les larmes et tout, je me serais cru dans Blade Runner.
Bon, scénario, le genre, c'est du polar uchronique.
Ouais.
C'est de Luc Brunswing et de.
Roberto Ricci.
Voilà. Brunswing, on a déjà parlé il y a 15 jours. Que nous raconte Urban?
Toujours chez Futuro, en fait. Hein.
Ouais.
Que nous raconte Urban? Nous allons donc suivre les aventures donc d'un colon qui va aller dans la ville de Montplaisir. Montplaisir, c'est en fait le parc d'attractions de l'univers.
Le méga parc d'attractions, trop top. C'est dans le futur. On est dans le futur,
On est
donc.
dans le futur, c'est donc l'endroit où il faut aller pour bah, connaître tout 300 000 hectares de pur bonheur, quoi.
Du loisir à donf de
Voilà.
partout. Quand on arrive, on nous refile un costume
Ouais.
d'un de nos personnages favoris, ce qui fait qu'on peut croiser dans la BD des Harald, des Lucky Luke.
Des Batman, des Dark Vador, enfin voilà, tout trop bien.
Avec un superbe autocollant d'ailleurs sur la couverture, sur le casque de Darth Vader. Lucas, why?
Ouais.
Voilà, en référence avec tous les changements qu'il a fait sur toutes les trilogies,
Oui, surtout ce petit,
sur les remakes.
le petit Jar Jar Binks qui est interdit.
Oui, voilà.
Seulement la vieille trilogie. Enfin bon, il y a Lady Oscar aussi.
Et on a donc le héros qui va là-bas pour devenir flic sur place.
Il y a les souhaits fantômes aussi.
Oui, c'est bourré de clins d'œil, c'est drôle.
Eric Beckman. Voilà.
Oui, c'est bien. Revenons
Il
au
y a
sujet.
Wonder Woman aussi. Il y a Goldorak en fond. Et c'est comment il s'appelait celui-là? C'est Cell, non?
Ouais.
Yes! Enfin voilà, donc déjà juste sur la couverture, vous pouvez déjà vous amuser pendant au moins 5 minutes.
À trouver tous les personnages présents. Pose ce bouquin, on réattaque
Bon,
la
alors, et
chronique.
donc voilà, l'histoire c'est quoi? C'est un bouseux qui se retrouve à rentrer dans la police de Montplaisir.
Il va rentrer dans la police, sauf que la police de Montplaisir est un peu particulière. Donc lui, il est à
Moi j'aurais dit
l'académie
particulière.
particulière.
T'as un problème avec les débuts d'émission et les accords, toi, hein,
Oui, c'est
c'est.
ça, début d'émission et accord, j'ai beaucoup de mal. Peut-être un titre, ça.
Note-le pour un jour, parce que
Et
on les note
donc,
pas.
il arrive à l'académie de police. Et comment ça se passe là-bas? C'est-à-dire que comme il y a des caméras partout, on sait à peu près où sont les criminels et on envoie l'intercepteur. C'est le gars qui a eu son diplôme de l'académie de police. Et c'est un peu un héros, une star de la télé. C'est la télé-réalité et la police confrontée. Et là, il lance les paris pour savoir qui va gagner. Ouais. Voilà, donc il les forme au mieux, hein, quand même, hein, les intercepteurs. Mais ils les aident pas forcément au maximum des possibilités qu'il leur donne, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du challenge. Il y a du challenge. Et donc, bah, là, il y a la base, c'est qu'il y a eu un meurtre. On envoie un intercepteur sur place qui n'est pas et qui a gagné à la place du héros, qui a gagné son statut d'intercepteur.
Oui, parce que l'autre, visiblement, tous les autres ont pris l'habitude dans Mon Plaisir d'utiliser certains gadgets qui enlèvent la gravité, mais comme l'autre est une sorte de bouseux.
Bah, ils ont tous été élevés dans l'espace et pas le héros.
Qui donc lui était un peu lourd. Il
s'appelle Zach. Zachary Buzz.
Merde, on ne connaissait pas encore le nom du héros.
Ouais, on est nuls.
Oh là là, Marcel, qu'est-ce que tu nous aimes.
Et donc, private joke inside. Et donc, on se retrouve là-dedans et on suit ce personnage qui a aussi une particularité, c'est que il a quitté sa famille dans des circonstances pas très cool apparemment. Sa sœur lui fait un peu la gueule et surtout, il veut devenir flic
parce qu'il a un héros.
Il a un héros d'enfance de dessin animé dont il était fan et donc il veut vivre comme ce héros de dessin animé. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on suit en fait plusieurs trucs en parallèle, parce qu'on a un gamin au milieu, qui arrive assez rapidement dans la BD, qui apparemment aurait un lien, mais je vois pas lequel, avec le héros du dessin animé en question.
C'est son fils.
Je sais pas.
Ah bah si.
Ouais, tu penses que c'est son fils ?
Ah bah,
non mais c'est un robot qui l'élève.
Mais non !
Ah ça y est, j'ai raté des trucs.
Attention, nous avons un gros fumble, je crois, en perspective.
Ah ouais, j'ai rien compris. Ah bravo.
C'est pas un robot ?
Ah si, le gars qui est avec lui, c'est un robot. Et qui va se retrouver au milieu de l'affaire, mais ça, je pense que ce sera plus pour le prochain tome. Au niveau du dessin, j'ai trouvé que c'était coloré. Quel mot as-tu utilisé ? C'est intéressant. Comme
efficace.
Efficace.
Efficace, parce que moi, je suis vraiment resté dans l'univers de Blade Runner.
Il y a un côté Blade Runner, ça m'a fait penser un peu au dessin de Jim Nez, sur certains points. Et c'est vrai que le dessin est très très classe, très coloré, très... il y a un côté Blade Runner, c'est bourré de clins d'œil, c'est très détaillé. Les personnages ont vraiment des gueules qui le font bien, qui sont bien sympas. Bref, ça passe très très bien, il y a un très bon découpage. Moi je trouve ça beau, tout simplement.
Clairement, ouais. Là sur tout le dessin, sur tout ce qui est création de la ville, je me suis régalé. Enfin, pour moi, ça fait une bonne BD de Blade Runner, quoi.
Le scénario, justement.
Blade Runner.
Ok, c'est simple. Prenons. Il arrive à nous guider sur ce personnage. Il y a beaucoup de mystères, en fait. On voit qu'il y a beaucoup d'amorces. On est vraiment dans un tome 1, dans le sens où, à la fin du tome, il manque quelque chose, quoi. On aimerait que ça aille plus loin. Il m'a pris dedans, quoi. Il m'a pris au jeu.
Bah, disons qu'il te présente un petit peu le monde rapidement. Ensuite, tu as ton histoire. Et forcément, l'histoire, on va dire, c'est entre guillemets finie. Mais c'est l'amorce de plein de choses, quoi.
Bah, disons que voilà, première partie de l'histoire, on a Zach qui arrive dans la ville, donc on nous présente la ville. Puis on voit qu'il est rentré dans l'académie. Pareil, il joue encore avec les ellipses, comme dans Car l'enfer est ici. Il joue encore avec les ellipses, même si dans un genre très différent quand même, hein, vu qu'on est dans de la SF.
Mais il y a quand même du temps qui a dû se passer.
Voilà. Et là, il commence à nous rentrer sur l'enquête, qui apparemment, je pense, va avoir de l'importance, parce que... je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça va avoir de l'importance. Et on a ce second personnage qui est introduit, du gamin, qui, je pense, va être un rôle très important, qui va forcément être lié d'une façon ou d'une autre à ce à quoi pense, au héros de Zach. D'ailleurs, oui, tiens, sur le dessin, on a oublié de le dire, il y a toute une séquence dessinée dans un style dessin animé, justement, beaucoup plus lisse, beaucoup plus léché, qui passe très très bien pour le coup, je trouve, qui est en contraste total avec le dessin classique, mais que j'ai trouvé très réussi. J'aime bien quand, dans une même BD, un auteur arrive à nous montrer plusieurs facettes de son talent, mais a raison, qui a une bonne raison de le faire. Bah, on attend la suite, en fait, c'est surtout ça.
Je sais pas
combien de tomes sont prévus. Chez Futuro, ils le disent, en général. Je sais pas si c'est une ongoing série, comme ils disent les Américains, ou si c'est une mini-série, mais en général, c'est précisé. Bon, c'est pas grave. Pouvons passer à quelque chose... On revient vers la légèreté, avec... Fluide glacial, flingue les séries TV. Au niveau du genre, c'est un recueil parodique. Donc, l'équipe de Flûte Glaciale, que j'ai arrêté de suivre il y a très longtemps, en fait, s'attaque aux séries télé, et chaque auteur va, à sa façon, s'intéresser à une série et essayer d'en détourner les codes pour nous en parler. Les auteurs sont, allez, vas-y, sans nous les noms, vite fait.
Berberian, Clark, Lindingre, Libon, Depin, Tronchet, Jousselin, Couteli, Krasinski.
Il est difficile de critiquer le style graphique et le scénario de ce genre de recueil, car dans cette anthologie, c'est le mot que je cherchais, je l'ai trouvé, dans cette anthologie, on a beaucoup d'auteurs différents. C'est très varié au niveau de la qualité, et d'ailleurs, c'est le mot que j'ai utilisé pour le dessin, c'est varié.
Moi, j'ai marqué que c'était très fluide.
Très fluide, dans le sens...
Pas fluide dans le sens...
Fluide dans le sens glacial.
Ouais, fluide glacial. Bah, disons que tu retrouves vraiment des... toutes les variétés que tu avais dans Fluide.
Oui.
Ça me saoule les papiers qui tombent de tes bouquins.
Ouais, bah ça va. Ensuite...
Ça reste vraiment voilà, très, très dans l'idée de ce que tu avais dans Fluide glacial. Quoi.
Et sur le scénario
j'ai pas réussi à donner un nom. Parce qu'en
génie
fait,
il y a la... varié.
Bah, il y a trop de trucs, quoi.
Moi, j'étais un peu déçu quand même par la couverture de Arthur Depin.
Quoi ?
Ouais, je sais pas, je trouve qu'elle passe pas super bien. J'ai d'habitude, elle m'appelait plus.
Ah non, je trouvais pas mal, là, au contraire. Tu vois, c'est... Bah, c'est dommage parce qu'en fait, la couverture te. Bah, t'enlève, on va dire. Ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à autre chose dedans.
D'accord.
Parce que du coup, tu te retrouves avec un graphisme qui est proposé en début, et c'est pas celui que tu vas retrouver dans tous les...
Ouais, enfin, les graphismes sont super variés aussi.
Oui, non, mais dans le sens où... si on a vu un graphisme comme ça, très caricatural, ça aurait été sympa.
Ouais.
Et il y a des histoires où j'ai pas du tout accroché, parce que le graphisme est...
Ouais. Alors, pour revenir sur les histoires, parce qu'on va pas non plus pouvoir tout chroniquer, elles sont très très variées.
Alors,
on va chroniquer celles qu'on trouve
De Californication, de... 24 heures chrono, des sopranos. De...
Voilà. Quelle a été ton histoire préférée dedans ? Est-ce que tu saurais dire ?
Bah finalement, c'est Californication.
Celle sur Californication et Scully qui réplique ?
Ouais, parce qu'en fait, c'est celle dont je me souviens le plus, donc je me dis que ça va être celle qui m'a le plus marqué.
Ok, donc oui, effectivement, on a donc... C'est David Duchovny, donc Californication, et il y a en gros qui a décidé enfin de se faire plaisir, et il y a Scully qui réplique. Et...
Pour lui dire que non, c'est pas bien de coucher avec tout le monde.
Et que lui, il fait ouais, c'est pas grave.
C'est pas grave, la vérité est ailleurs.
Voilà. Et ben moi, il y en a deux qui m'ont bien marqué. Il y a celle de Clark, avec le Dr House, qui joue dans l'humour noir genre que j'aime bien. Il y a aussi celle de James Van Otto Brod, avec Lie to Me. Avec le mec qui passe son temps à essayer d'analyser ce que les mimiques du gars
quand
qui lui parle.
Ouais, quand il en parle, ouais. Je t'avoue que celle-là m'a bien fait rire voilà, aussi.
Il analyse les mimiques du gars qui est en train de lui parler sans écouter un seul brin de ce qu'il lui raconte en fin de compte et à la fin de ne pas savoir ce qui se passait. Moi, j'ai trouvé les histoires très très bonnes là-dessus. Après, bon, bah, ça reste très varié, donc c'est correct, c'est moyen. Si on aime l'esprit flûte glacial, je pense qu'on se fera plaisir avec ça.
Ouais, et juste un petit truc pour Californication, les Red Hot Chili Peppers ont attaqué à partir de la saison 3 la oui. série en disant les gars, vous portez le nom quand même d'une de nos chansons quand même.
Leurs albums d'ailleurs, carrément.
Californication, oui. Peut-être bien que c'est même un genre. Enfin voilà, 3 ans après, ils se sont dit putain, les gars, ils portent le nom quoi.
Et oui.
Peut-être qu'ils attendaient de savoir si la série fonctionnait ou pas.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des sous ou pas ? Ou bien alors qu'ils ont des avocats
ils sont
nuls.
Tout pourris. Ouais. Alors, et donc nous passons à 5000 km par seconde.
On arrive sur des choses plus anciennes, ça y est, on est dans le rattrapage donc.
Ouais.
Parce que là, c'est vrai qu'il est sorti il y a quelques temps.
Ouais, il y a quelques temps.
5000 km par seconde qui est une chronique amoureuse pour le genre, qui a eu le grand prix du festival d'Angoulême l'an dernier.
Le grand prix, c'est le grand prix ?
Non, c'est pas le grand prix, c'est le grand prix, c'est Art Spiegelman qui l'a eu pour son œuvre. C'est le. Je ne sais plus, mais.
C'est pas le prix du public.
C'est le Fauve d'Or.
Le Fauve d'Or, parce que le prix du public, ouais. C'était le bleu est une couleur chaude.
Ouais, un des prix du public, il y en a eu deux pour le prix du public, ah, partagé ouais. Avec la parenthèse. Donc c'est chez Atrabile, c'est par Manuel Fior, ça coûte 19€. C'est un petit album, format, je dirais, un peu shampoing, avec un papier comme un peu de meilleure qualité. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est l'histoire.
Je t'en parle. Hein, c'est... Donc je vous donne mon avis hein, en même temps que.
Non,
je...
mais non, ah, si, c'est l'histoire. Il faut être objectif autant que possible.
Ah, ok, bon, c'est l'histoire donc, de deux potes qui ont une voisine qui est charmante. Et en fait, ils vont essayer de se la faire. Un des deux va se la faire. Et puis ensuite, bah, ils vont grandir. Ils vont avoir une vie chacun d'un côté et chacun de l'autre. Et on revient plusieurs années après et ils se retrouvent.
On suit comment se croisent des personnages à distance, comment ils mènent cette sorte de relation où chacun, chacun part à l'autre bout du monde. Cette sorte de relation amoureuse jamais vraiment
assouvie
entre ces deux personnages.
Totalement platonique en fait comme relation. Pour certains.
Voilà. Parlons du dessin.
Moi, j'ai trouvé ça. Vas-y, excuse-moi.
Mis Modigliani. Je trouve qu'il y a un côté Modigliani, un travail sur la couleur, sur la forme un peu simplifiée. Je trouve ça superbe. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, très très beau et très bien raconté, justement. Au niveau de la narration, ça passe super bien.
Bah, magnifique, voilà, c'est le mot moi, que j'avais envie de donner. C'est superbe. On a un écrin qui est fabuleux.
Sauf que ce qui t'a déçu, c'est le contenu, c'est ça ?
C'est une platitude, mais alors, à s'ouvrir les veines avant la fin de la 12e page, quoi.
Ah, tu es à contre-courant total de la critique générale, c'est...
Eh ben, écoute, moi le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il avait envie de raconter une histoire, mais que plus tu avances, plus il y aurait de bonnes choses à raconter, mais en fait, on reste toujours dans le superficiel. Il n'y a aucune histoire qui a abouti, ça reste plat, il n'y a pas de... C'est, voilà, tu t'imagines que tu as des acteurs qui jouent comme mon pied gauche, quoi, et il se passe un truc dans leur vie, tu vois, on leur annonce par téléphone, c'est « Ouais, ta mère est morte. »« Ah ouais, ma mère est morte. Ah. » Et là, je vais me faire un café. « Ah ok. » Il se passe rien.
Tu m'en fais un aussi.
Ben écoute, ouais.
Voilà, non, mais c'est vrai que j'ai mis l'an. Maintenant... J'ai pas été aussi déçu que toi. J'avoue que j'ai pas été aussi emballé que la critique en général. J'ai trouvé ça joli, que c'était une belle histoire. Effectivement, c'est une histoire d'amour, mais pas d'amour, on sait pas trop, parce que ça progresse pas. Ils se croisent, ils se rencontrent, ils se racontent leur vie. En fait, c'est une histoire d'amour ratée. Les personnages ont raté un truc à un moment. Ils sont chacun allés mener leur vie de leur côté. Et ils ont beaucoup de regrets, en fin de compte. Et plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'il y a un peu des regrets.
Oui, mais le regret, il est même pas... Enfin, tu as l'impression que les personnages sont dans une sorte de nonchalance, qui sont spectateurs de leur propre vie, quoi. Même le moment où tu as donc, bah, l'archéologue là, qui est pétri justement de regrets, hein. Et ben, quand il a le moyen ou quand il pourrait peut-être changer... Bah, il fait rien, quoi. C'est voilà. Pour moi, c'est le bouquin. C'est un superbe écrin. C'est super joli. Mais l'histoire, il se passe rien. Et il n'y a pas d'avancée. Tu n'as pas d'introspection.
Tu as l'impression qu'il n'a pas réussi à... malgré son dessin, il n'a pas réussi à faire passer l'émotion, en fait.
Ben voilà. Pour moi, c'est tu fais un bel emballage, mais sauf que dedans, il n'y a rien.
D'accord. Mais c'est parce que c'est dans la collection Flegme.
C'est ça, ouais, c'était flegmatique, écoute, mais trop pour moi, quoi. Là, voilà, j'ai pas accroché.
Ok,
pas
bah, moi j'ai trouvé vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est le genre d'histoire qui me semble pouvoir exister, mais qu'on voit peu dans les bouquins. En film, j'aurais détesté, je le dis de suite. C'est le genre de film chiant, gonflant, impossible. En BD, c'est le genre de truc qui me touche un peu plus parce que je lis à mon rythme, en fait. Je lis à mon rythme.
Mais c'est parce que surtout, en fait, en BD, tu es sûr de pouvoir venir au bout.
Ouais, non, et
puis pour la première fois de ta vie, tu vas au bout, alors qu'en fait, le film, tu regardes ça 5 minutes et tu dis, bah, je me casse.
Ouais, non, mais c'est aussi qu'en BD, le fait est que quand il y a un rythme lent, tu tournes les pages plus vite, tu sais que le rythme est lent. En film, quand il y a un rythme lent, t'attends une demi-heure. Et c'est lent, hein. Non, moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, que ça avait un côté touchant, triste, vraiment triste, en fait. Voilà, pour moi, c'est une histoire triste, c'est malheureux. Je plains les personnages, en fait. Je plains les personnages parce qu'ils ont raté quelque chose en espérant avoir. Ils ont réussi d'une certaine manière, mais ils ont raté quelque chose.
Je dois pas avoir assez d'empathie, écoute, ils m'ont pas touché un bras. Voilà.
Tu es sans cœur.
J'assume. Eh ben écoute, sans cœur, on va passer dans ce cas-là, sans cœur, sans reproche, un bon chevalier français, Bayard. Et pour rester dans la France, on va parler des sentinelles.
C'était tiré par les cheveux, mais c'était une belle transition.
Belle transition, quand
même. Belle transition. Chez Delcourt, par Xavier Dorizon et Enrique Breccia.
Yeah.
Fils de, j'ai oublié son prénom, Roberto, je crois, Breccia. Deux auteurs argentins super balèzes. Des références de la mort qui tue. Donc ne pas confondre le fils et le père, même s'ils ont déjà travaillé ensemble.
C'est dit, ben
nous
voilà.
Nous allons parler des deux premiers tomes, parce qu'on a un peu de retard.
Et,
donc, on part sur les premiers, et puis ils sont sortis en même temps. Donc,
ouais. Oui, surtout en plus que en fait, le tome 3, j'ai eu à peine de l'avoir. Donc,
voilà, on en parlera plus tard. Et puis ils sont sortis en même temps, donc voilà. Le même jour, etc. Donc. C'est du super-héros uchronique. Nous allons suivre. Vas-y, fais le résumé, parce que là je pense que tu vas être.
Ben, on est dans.
Texte historique, t'es meilleur que moi.
Arrête un peu. Guerre de 14-18.
Juste avant le début de la guerre.
Juste avant le début de la guerre, la France se prépare à celle-ci. Hein. On est dans une France, on va dire, un peu conquérante.
Disons qu'il y a une grande tension diplomatique, même si la guerre n'est pas déclarée.
La guerre n'est pas déclarée, mais on s'y prépare plus ou moins.
L'archiduc n'a pas encore été tué.
C'est ça. Et on a donc. J'ai Ferraud en tête, mais j'arrive pas à me rappeler son nom. Gaston.
Oui.
Gaston Ferraud. Le héros, c'est...
Oui, c'est ça, c'est Ferraud.
Ferraud, mais je ne sais pas, c'est Gaston, en fait.
Je ne crois pas, non. Mais bon.
Donc, Ferraud, notre personnage, a inventé donc une nouvelle source d'énergie.
Une pile au radium. Ça me fait penser un peu à la brigade chimérique.
Ouais.
Toi aussi, ça me fait penser à la brigade chimérique.
Bah, dès que tu parles radium, tu parles de Pierre Marie Curie, tu fais... Brigade chimérique. Et donc cette pile au radium, qui serait donc très petite, très portative, permettrait de réactiver un projet militaire qui sont donc les Sentinelles, qui serait un projet en fait de sorte de super soldat, mais qui avait un souci, c'est que le super soldat n'avait pas beaucoup d'énergie à l'époque.
D'ailleurs, la séquence d'ouverture nous montre tomber en rade de pile alors qu'il se fait tirer dessus.
Le premier soldat, la première Sentinelle qui était avant la guerre de 14-18.
Taillefer.
Et donc, on va suivre là, cette histoire et ce Ferraud qui va donc...
Ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a le chef du projet Sentinelle qui veut le relancer.
Et qui voudrait absolument la pile.
La pile, parce que ça lui permettrait d'avoir un taillefer qui dure longtemps, un taillefer Duracell. Et ça l'intéresse plus qu'autre chose. Et donc, il propose de racheter cette invention.
Sauf que lui,
Ferraud est un pacifiste. Un grand pacifiste.
Un pacifiste parce qu'il a déjà vécu la guerre aussi.
Voilà. Et donc, de toute façon, je sais plus comment il s'appelle, le chef du projet Sentinelle, sait très bien que pour lui, la guerre est inévitable.
Gabriel
Ferraud. Il sait que la guerre est inévitable et que donc il va pousser pendant la guerre, il sait qu'il pourra prendre cette invention de force. Sauf qu'il n'a pas vraiment... Comment ? Il n'est pas vraiment bien vu par l'état-major.
Alphonse Miro.
Et donc, il est obligé de forcer un peu les choses. Il va donc envoyer une des sentinelles précédentes pour protéger Gabriel Ferraud, pour pouvoir lui piquer son invention. Sauf que... Ça se passe pas super bien.
C'est pas exceptionnel, on va dire.
Voilà. Et bon, on va pouvoir le dire parce que c'est pas vraiment caché dès le départ. Ferraud va devenir le nouveau Taillefer. On va éviter de rentrer dans les détails des circonstances et se retrouver d'être une arme malgré lui pour aider à la guerre et une arme décisive dans le combat.
Oui. La création en fait d'une sorte de nouveau Frankenstein en fait, une nouvelle créature qui finalement va avoir son libre arbitre.
Les deux tomes sont sortis en même temps, se suivent vraiment et nous racontent vraiment la genèse du relancement du projet Sentinelle. C'est-à-dire que le premier c'est comment Ferraud devient Taillefer et le deuxième tome c'est
comment utiliser
sa première Taillefer. Mission.
Ouais.
Sa première mission pour nous mettre en situation.
Tout en conservant en plus des entre guillemets, des jalons plus ou moins historiques, parce qu'on part du début de la guerre, la mise dans les tranchées, et là, donc, on est à la bataille de la Marne.
Ouais.
Avec ces fameux taxis.
Qu'as-tu pensé du dessin ?
Moi, j'ai mis gueule.
Expressionniste.
Parce que pour moi, c'est tout le long du bouquin, bah, tous les personnages, que ce soit les héros, les personnages secondaires, même ceux qui sont en arrière-plan, ils ont des gueules, quoi. Ils sont tous taillés à la serpe, c'est impressionnant. Et sur leur visage, tu as de suite leur caractère, quoi.
Ouais, moi c'est ça, ce côté expressionniste, un côté. Enfin, déjà, bon, il y a un découpage très moderne, très comics, clairement. Un dessin beaucoup plus européen, on va dire, même si le style argentin a toujours été très européen. Mais on reconnaît aussi l'école argentine, qui était quand même tout ce qui est le père Breccia, Pratt et compagnie, avec quelque chose de très expressionniste, où il va jouer. C'est un faux réalisme, en fin de compte. Il y a un côté réaliste. Mais les gueules, les expressions sont, comme tu disais, un peu taillées à la serpe, exagérées, et passent très très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le dessin, même si les couleurs sont parfois un petit peu fades. Voilà.
Ce qui nous fait rejoindre un peu la brigade chimérique dans le dessin.
Ouais, ouais. C'est un peu plus travaillé, je pense, que la brigade chimérique. Mais il n'y avait peut-être pas non plus les mêmes enjeux de timing.
Ouais. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est à la fois un truc de super-héros, mais en même temps, je trouve que c'est très psychologique, quoi.
Bah, venons-en au scénario. J'ai mis...
Vas-y.
Hybride.
Humanité. Parce que je trouve que c'est vraiment une... Bon, t'as le prétexte de la guerre, mais c'est vraiment une étude sur l'homme, quoi.
Oui, sur l'homme. Et pas seulement vis-à-vis de Gabriel Ferro, mais aussi des personnages secondaires. Qui sont effectivement... très humain au niveau des soldats.
Très humain, très dans le désir, dans tout ce que peut avoir d'honneur, de perversité et de libre arbitre que peut avoir l'homme, quoi.
Et puis, en plus, pour bien accentuer ce côté humain, ça n'hésite pas à aller dans le gore.
Bah, ça montre la guerre 14-18 comme elle était, quoi. C'est-à-dire
quand les gens ils se font fracasser,
belle boucherie,
ils se font
quoi.
Fracasser, c'est de la boucherie, hein. Oui, il y a de la boucherie dedans. Âme sensible, s'abstenir.
Pas trop non plus, trop non plus quand même. Mais ça, ça montre vraiment la guerre de 14-18. Bon gros bordel, quoi.
Disons que ouais, quand tu vois les cadavres qui se sont pris un obus dans la gueule,
l'obus, c'est violent, mal, quoi.
C'est violent, hein, les restes. Moi, j'ai mis hybride parce que je trouve que c'est un très très bon mélange avec les problématiques du super-héroïsme. Plus le super-héroïsme à la Marvel. Grand pouvoir, responsabilité, héros à problème, toutes ces thématiques qu'on retrouve dedans. Mais aussi le côté historique qui est vraiment très, très, très documenté et très bien travaillé. Ça arrive à rendre les choses très crédibles. Et pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas du tout spécialiste de l'histoire, et encore moins de cette période, à ne plus trop savoir où est la limite entre... ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Clairement, tu sais plus du coup ce qui s'est réellement passé, ce qui ne s'est pas passé.
Ce qu'ils ont rajouté ou pas. Donc je trouve que c'est très très bien mené. Alors bon, qu'il y ait ce côté super-héros à problème à la Marvel, je pense qu'on peut aller chercher les racines dans le fait qu'à la base, les Sentinelles, c'était un projet de Iron Man d'Horizon pour Marvel. Ouais. À la base, c'était un projet qu'il avait fait pour Marvel qui a été refusé. Il avait pensé à essayer de mettre Iron Man en 14, de faire un Iron Man 1914.
Ça aurait claqué, ça.
Ça a été refusé. Je trouve que c'est pas si mal. Parce qu'il a beaucoup plus de liberté, des personnages qui sont à lui. Et je suis pas sûr qu'il aurait pu faire tout ça chez Marvel. Je pense que...
Peut-être pas, mais ça aurait pu être intéressant.
Je pense que Delcourt est beaucoup plus ouvert, sachant qu'avant ça, il a fait beaucoup de succès. D'ailleurs, je crois que d'Horizon n'a pas fait de pas succès. Est-ce qu'il a fait des choses qu'on foirait ?
Qu'on pas marché ? Je crois pas.
Voilà.
Bon, alors, mais peut-être qu'il en a fait. Hein, là,
on... S'il en a fait, ça a tellement foiré qu'on n'en a même pas entendu parler. Donc, une très très bonne série, en tout cas, moi, qui m'a bien intéressé. Et en plus, dans les premières éditions, il y a du petit bonus sympa. Tu as eu du bol parce que tu les as chopés il n'y a pas longtemps et tu as réussi à avoir des premières éditions. Ouais. Première édition qui, pour le coup, a un avantage. À la fin du premier tome, il y a une interview avec, avec Xavier d'Horizon.
Qui est vachement donc, enfin, qui est intéressante parce que voilà, il explique qu'il y a même des croquis aussi sur la création des personnages et tout, c'est quand même pas mal.
Qui, par contre, a un inconvénient, c'est qu'elle anticipe déjà sur le tome 2, parce que les deux tomes ont été publiés en même temps.
Voilà.
Et avec le tome 2, il y avait un facsimilé d'un journal, d'un pseudo-journal d'époque.
Avec Taillefer, le héros français.
Des photos retouchées. Graphiquement, oui, tiens, on n'a pas parlé du fait qu'il y ait des images. Original, des images d'époque qui sont dedans et qui ont été retouchées et qui jouent beaucoup, je trouve, à la crédibilité de l'univers. Bref, c'est un très, très, très bonne, une très très bonne série. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. J'espère juste qu'il y a une fin de prévue. Mais en général, l'horizon prévoit des fins.
Oui,
normalement,
il prévoit ses fins, oui. Enfin, en tout cas, elles y sont.
Voilà, un très 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 bonne série. On parlera du tome 3 très bientôt, dès qu'on l'aura lu.
Ouais, dès que je l'aurai lu, en fait, surtout.
Ouais, enfin moi aussi. Hein.
Bah comme ça, quand je l'aurai lu, je crois te le passer, surtout.
Ouais, trop bien. Nous allons pouvoir parler de...
Havre.
Chez Ankama.
Ankama, c'est vrai que ça fait longtemps, ça faisait quand même longtemps qu'on n'ait pas parlé d'Ankama.
Par Botian et Hot. Et pourtant, Ankama, ils sortent beaucoup de choses très sympathiques.
Tiens,
Wakfu, qui sort Dofus. Enfin bon, ils ont sorti pas que ça. Ils ont leur label 619, qui est une bonne tuerie qui m'intéresse. Mais c'est vrai que j'ai pas assez craqué pour aller dessus.
Ouais, mais surtout, c'est qu'en fait, en ce moment, c'est un peu quand même. C'est la crise.
Oui, c'est la crise. Il y a tellement de choses bien qu'on n'aurait pas pu acheter Blast.
Au moment où il est sorti.
Bah ouais, déjà rien que ça, avec tout le bien qui en était dit. Donc, Havre, c'est du. Post-apocalyptique magique.
Bah l'histoire, le monde s'est cassé la gueule et il reste des gens.
Et on suit un homme au début qui survit seul.
C'est un peu je suis une légende le gars.
Ouais,
il survit tout seul dans sa ville.
Sauf qu'il est nécromant.
Ouais, mais bon, non mais c'est je suis une légende. Le gars, il vit tout seul dans sa ville, il s'est créé sa petite ville à lui.
Oui, sauf qu'il fait revenir les morts pour avoir de l'occupation et discuter avec.
Bah, ça va.
Voilà.
Bon, il est nécromant, oui, donc c'est magique.
Voilà. Et il y a des monstres en dehors de la ville.
Yep.
Et puis il va rencontrer une jeune fille, une magicienne.
Une
sorcière, voilà, qui va s'incruster avec lui et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fous tout seul ? C'est pas comme ça que les choses vont avancer. Il faut qu'on bouge, qu'on aille trouver les autres survivants et qu'on essaye de s'organiser pour aller de l'avant. » Et lui...
il a sa petite routine, quoi. Il a pas trop
envie. Mais elle va réussir à le convaincre. Et on va suivre leurs aventures et la rencontre avec la première communauté dans ce tome 1. On les voit rencontrer leur première communauté. Au niveau du dessin, j'ai trouvé ça expressif.
J'ai trouvé ça, j'arrive pas à me relire.
J'arrive pas à me relire. C'est vrai qu'effectivement, il y a un petit côté j'arrive pas à me relire, très marqué dans le style graphique.
Désertique.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté désolé.
Ce côté très, très simple, très désolé, il n'y a rien quoi.
Et tu trouves que le dessin, il n'y a rien, quoi.
Non, mais rien, dans le sens... C'est un dessin, je trouve, qui est assez simpliste. On ne va pas dire qu'en plus qu'on a des jeux d'ombre de folie, un trait qui déchire sa race.
C'est vrai que niveau décor, c'est tranquille d'avoir un monde désertique apocalyptique. Hein, et on voit qu'il se fait bien plaisir avec ça. Hein.
Bah écoute, il montre qu'il dessine bien les rochers.
Ouais. Bah disons que voilà.
L'auteur, si un jour il me croise, il va me tuer le gars.
À un moment, il y a une voiture dessinée, mais il évite de trop dessiner des véhicules. C'est vrai que c'est chiant à dessiner les véhicules. Il va de l'efficacité. Bon, après, c'est pas non plus un album de 42 pages classique. Hein.
Oui, ouais.
C'est du 90 pages. Donc, et il y a déjà un tome 2 qui est sorti. Donc ça sort assez régulièrement, j'ai l'impression, assez vite. En tout cas, c'est efficace. Moi, j'ai trouvé ça très, très
tout
bien.
À fait, tout à fait.
Les gueules des personnages sont bien rendues, leurs expressions sont bien rendues, même si le trait n'est pas virtuose.
Ouais. Par contre, un truc moi qui m'a un tout petit peu chagriné, c'est les pouvoirs magiques. C'est un peu sur le dessin, c'est un peu transcrit de manière un peu particulière parce que t'as du. Au début, j'ai eu du mal à comprendre que c'était ça les trucs magiques, quoi.
Ah, les dessins, les effets spéciaux pour montrer
la magie sont un peu. C'est très petit, quoi. C'est...
Ah, ils n'avaient pas le budget, tu sais. Ankama, c'est un petit éditeur. C'est pas DreamWorks, quoi.
Je suis d'accord, c'est pas DreamWorks, mais enfin bon.
Ouais, tu trouves que l'effet, bah, je trouve moi ça pas mal que l'effet justement soit léger. Ça évite d'en faire des tonnes
Ouais, ça
et
évite d'en
de
faire.
montrer que c'est quelque chose de quotidien, de presque normal.
Ouais, mais du coup, il aurait peut-être pu les mettre un poil plus en scène au début pour qu'ensuite on les voie plus facilement. Moi, je t'avoue qu'au début, je suis vraiment passé à côté, quoi.
D'accord, ouais, du fait qu'il soit magicien,
D'un coup,
enfin
tu
qu'il soit
fais.
nécromant,
Après,
etc.
ouais, tu relis, tu fais. Ah oui, d'accord, c'est quand tu utilises les étincelles là que ça fait que. Ok.
Ok, au niveau du. Bon, alors oui, on va aussi noter que le dessin est dans des tons très très fades, mais pas dans le sens négatif, hein. C'est très doux, très.
Mais
Une
ça manque.
ambiance.
Ben, on imagine un monde apocalyptique, c'est un peu gris, quoi. Hein. Sauf la robe rouge.
La robe rouge, forcément.
Et là, peut-être qu'on a un petit rapport avec la liste de Schindler. Et le petit. Enfin, bon, là.
Le scénario.
Survival horror.
Psychologique. Alors, le survival horror,
Ah, ben, c'est
je pense
Resident
que c'est
Evil, quoi.
facile.
Hein. Ils sont là, ils ont des guns, il faut qu'ils survivent.
Toi, t'as vu que ça dans le scénario?
Ah, mais après, oui, après, tu vas voir aussi toute la relation que lui, il essaye de nouer avec les autres. La sorcière qui, elle, justement, refuse finalement de côtoyer les humains parce que du coup, ça lui. Il lui renvoie de l'empathie et des émotions qu'elle ne veut pas ressentir. C'est.
Oui, parce que la
C'est.
sorcière, alors oui, le pouvoir de la
C'est.
sorcière, explique-le, parce que c'est vrai qu'il est un peu particulier.
L'expliquer, je vais
Ouais.
peut-être pas
Bon, en
trop.
gros, elle capte les émotions et les
Et
utilise.
les utilise ou se les prend dans la gueule aussi.
Voilà.
Et du coup, c'est assez particulier parce que l'un comme l'autre n'ont pas envie de l'humanité, mais pour autant, ils ont envie d'être ensemble.
Et puis lui, enfin ils ont tous besoin d'humanité. Elle a besoin des
Oui.
émotions des autres, et lui se crée des sortes de zombies pour pas être seul. Donc moi j'ai trouvé que c'était très psychologique, surtout dans l'approche, la façon dont elle a de le convaincre, par exemple, de le suivre. Je trouvais ça un peu tordu, mais très bien travaillé psychologiquement. Ça montre déjà une certaine profondeur dans les personnages, alors qu'on est sur une thématique super basique. Il y a un côté de manipulation mentale, dans le sens manipulation, je te dis que, mais en fait non, mais c'est parce que je veux te pousser à faire ça. Surtout chez la magicienne, mais c'est logique, elle est maîtresse des émotions. Mais en tout cas, scénaristiquement, c'est pas évident, je trouve, à écrire et à retranscrire, sans être un peu pédant, etc. Je dirais qu'ils arrivent à utiliser ça pour faire avancer l'histoire. Et je trouve qu'il y a un côté psychologique au niveau des personnages super bien travaillé. Disons que tu vois le truc venir parfois de ce qu'elle est en train de faire, tu te dis non, mais il va pas tomber dedans, et puis tu te rends compte qu'en fait il tombe dedans, mais c'est normal, après c'est logique, c'est une évidence. Je trouve que voilà, les personnages sont très très bien écrits.
Les rebondissements après sont assez quand même, assez, enfin je trouve assez entendu quoi. Le passage dans la ville suivante,
Ouais, enfin le final.
Non pas le final,
Le final m'a
non non
laissé un petit peu sur le
le
cul.
final, non, mais oui mais moi
Ouais.
j'étais dans le cheminement du
Ouais.
scénario. Le passage dans la ville, je trouve c'est assez entendu parce que ça tu t'y attends,
Ouais,
ça c'est le truc
classique.
classique quoi.
Oui, c'est du classique post-apo, là. Hein.
Voilà,
En fait,
mais
ils ne sont pas si gentils que ça. Et puis, on venait de lire à peu près la même chose dans le Walking Dead numéro 5. Donc,
aussi, c'est ça qui peut-être nous a mis sur la voie. Mais ouais, la fin, par contre, te sèche quand même complètement. Parce que du coup, là, c'est un vrai rebondissement.
Ah oui, un vrai rebondissement et violent. Très, très, très violent.
Ben, c'était pourtant une violence que tu avais gratuite au début, mais celle-là
Ouais.
te choque.
Ah ouais, moi, ils ont réussi à me, waouh, à me perturber et à avoir envie d'avoir la suite. Pour savoir ce qui va se passer.
Ouais, ben, écoute, il faudra que je retourne voir Dali.
Voilà. Va faire des courses!
Dans notre excellente. Excellent magasin de bande dessinée à Aix-en-Provence qui s'appelle la BDRI.
Ce message n'était pas sponsorisé du tout.
Peut-être qu'un jour on aura plus que ce que nous donne notre carte d'abonnement.
Moi, ça va.
Salope. Pardon, excusez-moi. Oh. Voilà, tu
Mais
vois.
c'est quoi ces manières?
Mais toi t'as droit à des trucs et moi j'ai droit à rien. Mais
Mais
en
tu
même
vas, c'est
temps.
moi qui vais tout le temps, tu vas jamais, je te fais tes courses presque. De
Ben ouais, mais
façon à blast, au
foutex.
lieu de dire des conneries, n'importe quoi. Tiens, pour la peine, je vais même pas couper au montage et je vais dire que t'as dit du mal.
Mais c'était pas d'elle, hein? C'était de toi!
Ah, c'était moi la
Bah
salope!
oui, non,
Ah,
attends, et Odali, je la connais pas assez pour le faire comme ça, puis en plus je la respecte.
Ah
Elle!
oui, j'ai eu peur,
Mais
quoi. Je me
toi
suis dit,
non,
mais
mais
qu'est-ce qui lui
elle,
prend?
oui!
Mais qu'est-ce qui lui prend? Donc Dali est notre gentil libraire que l'on aime. Blast! Nous allons venir sur les deux premiers tomes. Donc on a à la fois un peu de la nouveauté, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le tome 2, et un peu du rattrapage, parce
Que le
qu'on
tome 1 est sorti depuis longtemps.
et on nous a dit tellement, mais tellement de bien de cette série. Ça a été le prix des libraires l'an dernier, d'ailleurs, hein, le prix des libraires Canal BD. J'aime beaucoup Larsenet, même si en fait je me suis rendu compte que j'avais rien de lui parce que c'est mon frère qui achetait ses BD. Et Blast, quoi. Et je vais avoir le prochain bouquin de. Tiens, d'ailleurs, le prochain bouquin de Larsenet, je vais l'avoir. C'est pourquoi? C'est un Valérian.
Mais ben voilà.
Oui,
Tout est dit.
Valérian par Larsenet. Je suis bien curieux de savoir ce que ça va donner. Donc.
Et l'arsenic, en plus, on a rencontré un, nous, de l'arsenic.
Ouais.
Mais pas Manu.
Ah oui, Patrice. Frangin qui fait les couleurs, d'ailleurs, souvent sur ses BD. Grasse Carcasse, le tome 1 de Blast. Le genre, nous sommes dans de la biomarginale. Nous allons suivre la. En fait, prenons les choses dans l'ordre. Nous sommes dans un commissariat. Une jeune fille est dans le coma à cause d'un homme.
Ouais.
Voilà, qui s'appelle. Zut, j'ai oublié son nom.
Ah ben
Super.
voilà. Ah ben encore une
Ah
fois.
là
Oh
là,
là
qui
là,
fait.
Marcel, un fou.
Piedi, Piazzo, Piedio, Puto Puto.
Sexy bitch.
Non. Donc, à cause d'un homme qui est un obèse, quelqu'un de très très gros, et qui est actuellement interrogé par deux flics, qui veulent savoir comment ils en sont arrivés là, parce que, bah, en dehors de cette femme dans le coma, il est leur seule piste, et puis il serait coupable quand même. Pozzi.
Pozzi.
Voilà. Il serait coupable. Le truc, c'est que ce gars-là, c'est un marginal, qui a une vie très étrange, qu'il va raconter aux flics. Et vu qu'il est leur seule piste, ils sont un peu obligés de le laisser raconter les choses comme il l'entend.
Et d'écouter toute son histoire.
Toute son histoire, même les passages dont ils n'ont rien à faire. Et on découvre donc que. Pozzi, c'est pas Pozzi son nom. Enfin bon. Que le héros était un critique littéraire.
Non, culinaire.
Culinaire, pardon. Et que du jour au lendemain, en fait, il a tout lâché pour aller dans la rue. Parce qu'il avait connu le blast, une sensation de liberté, une sensation terrible, une sorte d'épiphanie, et qu'il voulait essayer de la retrouver en abandonnant tout.
Bullseye.
Polza, voilà. On
Bullseye
était presque.
Mancini.
En abandonnant tout bien matériel. Et donc, Polza raconte son histoire, et ses rencontres, et ses choix. Et voilà, je crois que c'est à peu près résumé. Et comment on vit dans la rue,
Comment on vit
et
dans la forêt, dans la nature,
voilà. Et comment est-ce que
toujours dans l'alcool quand même, hein. Il y a
dans l'alcool, dans la drogue, parce qu'il essaie de retrouver ce blast à tout prix.
ce blast qu'il a connu à la mort à la mort de son père, en fait.
Voilà. Et il veut retrouver ça à tout prix. Il aimerait bien réussir à le retrouver. Il ne sait pas comment l'obtenir, si ce n'est en étant dans les excès. Et à côté de ça, bah, les flics, eux, bah, ils s'en foutent de son blast. Eux, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Au niveau du dessin.
Attends, je suis pas dans la bonne case.
Ouais, et j'ai mis brut.
Bah, torturé.
Larsenet nous fait ce qui doit être une de ses œuvres les plus personnelles, même si elle ne parle pas de lui. Il avait fait hein, des BD vraiment biographiques chez les rêveurs, genre L'artiste de la famille, Dallas Cowboy, etc., qui étaient de très bonne qualité. Et là, c'est plus une BD dans laquelle il s'implique énormément. Il a mûri, il n'a plus besoin de raconter exactement sa vie. Il a envie de raconter autre chose que des histoires rigolotes, ce qu'il faisait très bien d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il recommence d'ailleurs, c'était rigolo. Et il nous fait un dessin qui est d'une maturité. Putain, c'était le mec qui nous faisait Bill Baroud, quoi, les gros nez, les pifous et les trucs débiles. Et alors là, il est non, mais dans une maturité, un travail du noir et blanc, car la BD est en noir et blanc, sauf pour pendant les blasts, où la couleur arrive, mais qui est magistral. On a l'impression qu'il a lâché sa peinture, enfin son encre, qu'il a posée de façon mais brute sur sa planche, alors que c'est hyper travaillé. Tu en es sans voix.
Le travail au niveau du dessin est quand même assez, enfin, est phénoménal. Je sais pas combien de temps ça lui a pris
Oui.
de faire ce bouquin. Et du coup même de faire les deux, parce que je sais pas du tout combien est-ce qu'il a pu mettre de temps pour faire tout ça.
Il faut une année, je crois, pour faire un blast. Bon, après, Blast est une œuvre avec beaucoup de pages. Le premier tome, enfin, chaque tome fait plus de 200 pages, je crois, quasiment 160, je crois.
Non, plus de 200.
Plus de 200? Voilà. Donc c'est du gros pavé. Et brut aussi dans le sens où les blasts sont représentés par des bouts de dessins en couleur qui sont des dessins d'enfants. Sans doute les enfants de l'Arsenet.
Sont de Lily et Lenny.
Voilà. Qui l'intègrent, mais de façon magistrale, je trouve, dans son trait. Et qui, pour le coup, sont de l'art brut, au sens premier du terme. Quelque chose de fait sans réflexion, au premier niveau du dessin, quoi. Et ça passe super bien. Le deuxième tome, pour revenir
Je
sur le
veux dire, ouais,
scénario,
bref, parle.
avant d'attaquer le scénario, on poursuit les aventures de Polza et on découvre sa rencontre avec Jackie,
Et donc le deuxième tome s'appelle L'Apocalypse selon Saint Jacques.
qui est un dealer qui vit dans la rue aussi. Et qui est un gros lecteur, il a des tonnes de livres chez lui, des tonnes et des tonnes, et qui connaissait. En fait, il manque d'éclater la gueule à Polza, et puis il découvre qu'il le connaît parce que il a un de ses livres. Et donc, à partir de là, il décide de le prendre sous son aile, et on se rend compte que c'est un grand malade, en fait, ce Jackie. Un très très grand malade.
Très très grand.
Ce qui, d'ailleurs, fait que les flics commencent à s'autoriser à laisser Polza continuer à raconter sa vie.
Parce qu'il est en train de leur raconter des choses qui
Qui les intéressent.
sur d'autres enquêtes, mais qui sont quand même intéressantes parce que ce sont des choses qu'ils n'avaient pas.
Et qui leur permettent de retracer un peu le trajet de Polza au cours du temps. Le scénario, donc, maintenant qu'on a parlé du dessin, je veux dire, le dessin du tome 2 est du niveau du dessin du tome 1. Hein. Il n'y a rien de spécial à
Non.
rajouter. Qu'as-tu utilisé comme mot? J'ai mis dérangeant.
Alors, je te laisse le lire alors, parce que du coup, sinon ça va pas être drôle. Ils vont croire que je te copie à chaque fois,
Tu as
mais.
mis dérangeant aussi.
Ah, dérangeant.
D'accord, mais c'est parce que. Pourquoi?
Bah, parce que dans la vie de Polza, je dirais que tu retrouves un peu toute la bestialité de l'homme et en même temps toute son humanité, quoi. L'humanité qu'il a perdue, la bestialité qu'il a retrouvée, cette bestialité qui rime aussi avec sa liberté à lui, mais qui n'est pas celle des autres hommes. Enfin, tu te retrouves avec toute une sorte de truc qui fait que.
Ça parle de toute une partie de nous qu'on refoule, je pense
C'est.
aussi.
Voilà, c'est.
On se reconnaît dans certains trucs, mais qu'on refoule forcément.
Parce que c'est. Bah, parce que tu te retrouves avec la bête, quoi.
Ouais, la bête qu'on a un peu en nous. C'est vrai que parfois, j'ai beaucoup d'empathie pour le personnage, tout en le détestant.
Tu le détestes parce qu'il t'écœure. Il est écœurant sur certains aspects.
Mais il est très
Enfin,
proche de nous par d'autres.
pas seulement. Je parle pas d'écœurant dans le sens. Eux, ils en parlent dans le sens où il se nourrit, ou son côté gros et tout. C'est pas ça qui m'a écœuré, c'est sa façon de vivre les choses dans l'excès, quoi.
Ouais.
Et ça en est presque écœurant et dérangeant. Et pour autant, il y a d'autres moments où je suis d'accord avec toi. Tu commences à avoir de la sympathie pour lui, quoi. Tu rentres dans sa psyché et tu te dis oui, c'est humain ce qu'il fait, quoi.
Et c'est très très bien raconté par la relation avec les flics, qui sont pas des méchants flics, qui sont des flics qui font leur boulot, qui sont plus ou moins durs, ils ont quand même, pour eux, ils ont un criminel devant eux.
Parce qu'on ne sait toujours pas au fait ce qu'il a fait
À
à
cette
cette fille.
fille.
Ça, c'est quand même la question, on va
C'est
dire.
le fil rouge. Ouais.
Attends, je cherche le nom de la fille parce que je crois que je l'ai là.
Et
Hop. Virginie, je crois.
il y a cette relation
Caroline.
aussi.
Caroline Cudino. Udino.
Il y a cette relation aussi dans le fait que les flics, de temps en temps, nous montrent que ce qu'ils nous racontent est parfois embelli. De temps en temps, on a une intervention des flics qui nous dit « Attends, tu nous racontes ça comme ça? » Mais c'est ça, nous, qu'on a comme info. Ça, on le sait, on a ces faits-là. Toi, tu nous racontes, tu as vu ça comme ça, mais c'est pas ça du tout. Ce qui fait qu'on a toujours... on se sent forcé de prendre du recul vis-à-vis de ce récit, qui est pourtant très prenant, dans lequel on rentre dedans, à se dire « Quand est-ce qu'il nous ment? Quand est-ce que c'est vrai? » Surtout qu'il a des hallucinations, il
Bah
voit
les blasts,
les statues de l'île de Pâques, il a ses blasts, il voit des
les
éléphants...
animaux, enfin, le côté animal de l'homme est quand même vachement présent. Dans le premier tome, t'as le hibou qui l'a bien travaillé. Là, t'as
Oui.
l'éléphant. C'est voilà, les animaux sont présents quand même dans l'histoire. Hein.
Ouais. Puis ce côté de. J'ai l'impression que plus on va aller avancer dans les tomes, plus on va aller dans la cité. J'ai l'impression qu'on s'en rapproche.
Mais il revient à la civilisation, en fait.
C'est-à-dire que dans le premier tome, il se lance vraiment dans la bestialité, dans le côté rejoindre la nature, vivre en harmonie avec la nature, et avec tout ce qui est dégueulasse dans la nature, hein, parce que la nature, c'est sale, entre guillemets. Et il revient sur un deuxième tome avec vraiment un retour à la civilisation. Voilà, donc Blast, quelque chose de waouh.
Ouais, très, surtout très que la fin du tome 2 du coup te laisse parce que du coup tu découvres aussi Jackie et là ça te la nausée quoi hein. J'ai fini un peu le tome 2 en ayant un peu la nausée mais du coup en attendant le tome 3 en me disant mais ouais qu'est-ce qui se passe après quoi,
ça donne envie. Donc chaque tome coûte 22 €, c'est chez Dargo, c'est par Manu Larcenet,
c'est du beau bouquin quand même.
Du beau bouquin, ça vaut vraiment le coup
mais peut-être pas mettre en toutes les mains. Ouais. Alors,
le meilleur du mieux.
C'est quoi pour toi ?
C'est dur, hein. Parce que je t'avoue que les Sentinelles étaient bien prenants, quoi. Plus divertissant qu'un Blast, on va dire.
C'est pas pareil, quoi.
Bah, disons qu'on a eu un grand œuvre, je dirais, et un divertissement de qualité et intelligent. C'est vraiment, je peux pas, j'arrive pas. C'est deux genres tellement différents. Et en plus, on a eu d'autres BD pas trop mal dans la sélection. Bon, qui sont à 15 000 km quand même. Blast reste un chef-d'œuvre, je pense. Un travail qui arrive à faire ressentir des sentiments qu'on n'attendait pas.
Que j'attends pas en BD, en fait.
Voilà. Ce qui dérange et que je trouve très réussi pour ça. Les Sentinelles, bah. C'est
un bon divertissement.
Voilà, c'est un bon moment. C'est. Ouais. Bon.
Ouais, je dirais. Ouais, non, je dirais Blast.
Ok, allez, Blast.
Même si c'est quand même vachement dérangeant, ça reste Blast.
Blast, donc, est la BD de cette quinzaine. Nous passons sur notre hors-sujet.
Alors là, je te laisse parler parce que c'est ton histoire, c'est ta vie.
Voilà. Je suis allé voir, il y a peu de temps, La Nostalgie de Dieu. Une pièce de théâtre adaptée de l'œuvre de Marc Dubuisson, de ses deux BD, La Nostalgie de Dieu et Le Complexe de Dieu. C'est actuellement à la Comédie Contrescarpe jusqu'à décembre, il me semble, sur Paris. J'ai eu la chance de les voir parce qu'ils ont fait un petit passage du côté de Marseille. Je vous recommande grandement cette bande dessinée. Je n'ai pas lu la bande dessinée, donc elle est sûrement très bien. Hein. Marc Dubuisson en avait déjà parlé avec les aventures du bureaucrate Michael Guérin, qui était très très sympa en BD. Là, en gros,
c'est sur du online, ça.
C'était un online. Là, en gros, nous allons avoir un mec qui en peut plus, qui va pour se suicider, qui est au bord du gouffre, et il lance un dernier appel au ciel. Et là, Dieu lui répond. Et lorsqu'il lui demande, mais vous êtes Dieu ? Et là, Dieu lui répond, qui tu veux que je sois, connard ? Le dieu n'est pas vraiment la personne qui l'attendait. Et il commence un discours entre eux sur la religion, la vie, la mort, etc. Et on se rend compte que le dieu en question est quelqu'un pétri de cynisme qui est très très drôle. Les acteurs sont super sympas. Ils arrivent à avoir des bouilles géniales. Un côté je m'en foutiste pour celui qui joue Dieu. Ça c'est pour le premier acte. Le deuxième acte, Dieu après cette rencontre avec cet humain...
se dit qu'il a raté un truc.
Ouais, et décide d'aller voir un psy. Et donc, il essaye de savoir avec ce psy pourquoi est-ce qu'en fait, il rêve qu'il tape le carton avec Batman.
Avec Batman ?
Oui. Donc, Dieu se pose cette question et va voir un psy pour essayer d'avoir la réponse. Et s'enchaîne encore toute une série un dialogue superbe, très bien mené, avec une mise en scène très simpliste, très brechtienne. T'as vu un peu comme ça fait un télo de dire très brechtienne. Et encore, je suis pas sûr que ce soit que ce que je veuille dire, j'utilise le bon mot.
C'est pas faux.
C'est une très très bonne pièce de théâtre adaptée d'une bande dessinée que je n'ai pas lue et que ça m'a donné envie de la lire, même si je me demande si j'ai pas déjà tout vu en regardant la pièce. Ça a eu assez de succès pour reprendre la Comédie Contrescarpe parce que normalement c'était fini l'an dernier. Donc jusqu'en décembre, allez-y. Moi j'ai passé un très très bon moment. D'autres personnes que je connais ont passé un très très bon moment. Ma femme qui était très sceptique a passé un très très bon moment. Voilà quoi. Allez-y.
Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez ? Voilà. Et pourquoi vous nous écoutez encore ?
Ouais. Vite, réservez les places sur Internet. Et on a fini pour aujourd'hui.
Yes. Bon, alors, surtout, n'hésitez pas, laissez-nous les commentaires sur Face de Book, sur Twitter, sur iTunes, surtout. Même si vous n'êtes pas d'accord, laissez-nous un avis.
On essaiera de le prendre en compte autant que possible.
Voilà. Du coup, là, aujourd'hui, nous avons essayé tous de manger le micro.
Ouais.
On s'en est pas éloigné. Je ne suis pas allongé dans le canapé. Wow. Pas une seule fois, j'ai mal au dos. Voilà, j'ai combattu à cause de vous. Voilà. Voilà.
Merci, c'est très sympa. On vous revoit de toute façon dans 15 jours. On espère qu'on sera encore en état. Merci à vous.
Merci, au revoir.